voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Se soigner autrement. L'avantage des thérapies alternatives est d'accompagner des personnes dans leur globalité. Ces thérapies prennent en considération les individus de façon holistique. Elles s'adressent tant au corps qu'à l'esprit. Tous les aspects des troubles, causes et effets, qu'ils soient d'ordre psychologique, physiologique, psychosomatique ou environnemental, sont pris en considération par ces médecines intemporelles. Les médecines alternatives sont naturelles. Elles permettent de diminuer la consommation de médicaments et de réduire les effets secondaires liés au traitement allopathique. Souvent, elles accompagnent le corps et l'esprit vers l'auto-guérison. La voix du Kaizen donne la parole à ces thérapeutes alternatifs qui complètent la médecine allopathique et nous permettent de soigner notre corps et parfois notre âme. Adélia a toujours été passionnée par la nature et le lien entre humanité et environnement. C'est donc par évidence qu'elle a transmis ses valeurs pendant plusieurs années par l'intermédiaire du métier de prof de SVT avant de devenir à temps plein professeur de yoga. L'idée, c'est de se rencontrer autour d'un micro. J'ai envie de savoir un petit peu qui tu es, ce qui t'a amené à la pratique du yoga. Mais avant de me parler du yoga, me parler un petit peu de toi et de ton itinéraire personnel.
Alors moi, de base, je suis plus biologiste que prof de yoga parce que j'ai fait des études de bio. Donc j'ai un master en écosystème terrestre, plus particulièrement. Et du coup, je suis partie dans le cadre de mes études en Australie et en Nouvelle-Zélande pour aller étudier en Australie les koalas. Et voilà. Et du coup, après, j'ai bifurqué en Nouvelle-Zélande. Et c'est en Nouvelle-Zélande, en fait, après mes études, j'ai pris un peu 7 mois de voyage, etc. là-bas. Et du coup, j'ai commencé le yoga là-bas parce que du coup, j'avais pas plus rien à faire, mais j'étais dans un autre contexte, dans un autre environnement. Et j'avais toujours voulu faire du yoga et en fait, j'avais jamais pris le temps pendant mes études ni rien. Il y avait toujours cette petite étincelle de j'ai envie d'essayer quand même ce truc, c'est un peu bizarre, mais je sens que ça m'appelle. Et du coup, bah, je suis tombée par hasard justement sur une retraite de yoga là-bas. Et j'ai commencé à aller faire du yoga dans une retraite en fait. Donc on est parti au bord de la mer et on a fait du yoga pendant une semaine. Et du coup, c'était une pratique plutôt de hatha yoga, donc plutôt douce. Et moi, je suis quelqu'un de très tonique, donc je me suis dit « Oh là là, le yoga, c'est peut-être pas fait pour moi, c'est trop doux. » Je m'ennuie un peu, en fait. Et les gens là-bas m'ont dit « Non, non, mais toi, tu devrais essayer plutôt une pratique tonique, plutôt l'ashtanga. » Je me suis dit « Ah, ok, d'accord. » Moi, j'étais un peu impressionnée parce que c'était pas du tout... je savais même pas pourquoi j'étais là, au final. Et en fait, j'y suis allée, quoi. Je suis allée faire de l'ashtanga. Et juste, ça a révolutionné ma vie, quoi. Donc, j'ai commencé à pratiquer 3 fois par semaine, puis tous les jours. Et c'est devenu comme un leitmotiv, quelque chose vraiment que j'avais besoin de faire tous les jours, où je me sentais bien, où je me sentais apaisée après, et plus forte aussi, plus stable dans ma vie, etc. Donc, je me suis consacrée à faire que ça là-bas. Et quand je suis rentrée en France, bah, du coup, je suis devenue prof de SVT, parce que c'était mes études et c'était le chemin que je voulais faire. Et j'ai adoré, c'était quelque chose vraiment de génial. Donc, j'étais prof de SVT à Paris, en lycée, en collège. J'ai vraiment adoré mon métier, mais en même temps, je faisais toujours le yoga et j'avais toujours ma pratique régulière et je faisais fonctionner les deux. Tout de suite, je me suis pas posé de questions, j'ai voulu aller plus loin dans ma pratique et du coup, j'ai fait un teacher training, donc quelque chose pour apprendre à enseigner, en fait. Au départ, je voulais le faire pour moi, parce que je voulais aller plus loin dans ma pratique et puis découvrir un peu tout l'aspect aussi spirituel qu'il y a derrière le yoga, parce qu'il n'y a pas que les asanas, les postures et la respiration, il y a aussi tout un aspect spirituel qu'il y a derrière. Et donc, du coup, je voulais aller plus loin là-dedans. C'est pour ça que j'ai fait ça en même temps que j'étais prof de SVT. De fil en aiguille, on m'a demandé de donner des cours, donc j'ai commencé à en donner, des cours particuliers, puis des cours dans des studios, etc. Donc, je faisais toujours les deux en même temps. Et il y a un moment donné où je me suis dit, bon... Je peux plus faire les deux en même temps, ces deux énergies qui sont géniales, mais enfin, je peux pas les mixer ensemble, c'est trop compliqué, donc je vais arrêter prof, puisque voilà, et me consacrer qu'au yoga. Bien que j'adorais mon métier, hein, je l'ai vraiment pas quitté parce que j'en avais plus envie. Et du coup, j'ai commencé à enseigner. Et comme j'adore le voyage, parce que ça fait partie de ma vie aussi, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien emmener les gens aussi aller faire du yoga à l'étranger, en même temps que de faire du yoga là où je suis, à Paris. D'un autre côté, j'avais un autre projet, c'est que je voulais pas non plus abandonner les lycées et l'éducation nationale, donc j'ai commencé à faire du yoga aussi pour les adolescents dans les lycées. C'était un super projet, mais qui prenait beaucoup de temps. Il a duré 2 ans, 2 ans et demi, presque 3 ans, où j'ai fait du yoga d'abord dans mes anciens établissements avec les adolescents, où ça a été un enrichissement spectaculaire. Et après, je suis allée dans des ZEP, en fait, avec des adolescents plutôt à problème, etc. Et ça a été juste une expérience magique qui, je pense, reviendra dans ma vie un jour. Mais comme c'est beaucoup d'investissement personnel et que je ne peux pas tout faire en même temps, je l'ai un peu mis entre parenthèses en ce moment. Et je me consacre plus justement au studio, aux retraites, au monde du yoga à Paris et emmener les gens en voyage. Mais je pense que ça va revenir bientôt au niveau des adolescents. Ouais.
Qu'est-ce qui a fait que tu choisisses, donc tu avais ce choix, tu étais prof de SVT et prof de yoga, donc il fallait faire un choix, tu as choisi le yoga, pourquoi ? Parce que c'est pas la facilité, on pourrait penser qu'en étant prof, tu es fonctionnaire, donc tu as la sécurité de l'emploi. Ouais. En te lançant dans l'activité du yoga, tu deviens indépendante, donc là c'est à toi de créer ton réseau.
Ben, parce qu'en fait, c'était une envie intérieure, je crois, et j'ai juste pas réfléchi à ce qui pouvait m'empêcher ou ce qui était le confort, ou etc. J'ai juste réfléchi à j'ai besoin, j'ai envie, je sens que ça vibre à l'intérieur, je sens que j'ai envie d'aller plus loin là-dedans. Et j'ai écouté ça, en fait. J'ai écouté cette espèce de guidance intérieure qui me disait d'y aller. Et voilà, et je me suis pas vraiment posé de questions. Je pense que si j'avais commencé à me poser des questions, je l'aurais peut-être pas fait. Parce que au départ, c'est quand même un peu difficile, entre guillemets, où effectivement, on devient auto-entrepreneur. Il y a tous les aspects financiers qui vont derrière, etc. Et au final, je pense que quand on suit son vrai cheminement intérieur, et ben, il y a tout qui se met en place pour qu'au final, ça aille bien.
Waouh, c'est beau. Bon, alors on va partir sur l'aspect yoga plus que voyage. Peut-être que voyage une autre fois, mais bien là, c'est le yoga qui va m'intéresser. Donc le yoga, déjà, qu'est-ce que c'est ? Si tu devais me raconter le yoga, présenter le yoga à quelqu'un qui... Bon, on a tous entendu parler du yoga aujourd'hui. C'est un terme qui est hyper démocratisé. Il n'y a pas une personne qui n'a pas lu ou entendu le terme yoga. Mais qu'est-ce que vraiment le yoga ? Parce que c'est bien plus qu'un mot, c'est très complexe.
Alors, c'est extrêmement complexe. Du coup, je vais y aller simplement. Le yoga, ça veut dire, entre guillemets, pareil, c'est un peu raccourci, mais ça veut dire l'union. Alors, ça peut être l'union à plein de stades différents. Ça peut être l'union juste corps-esprit dans la pratique des postures, reliée avec la respiration. Donc, l'union de son esprit à son corps dans le mouvement. Donc, c'est une vraie méditation au mouvement. On est dans son instant à travers la respiration, à travers les mouvements de son corps. Après, ça peut être l'union à un autre niveau plus spirituel, ou ça va être l'union avec soi-même, où ça repose sur le fait que nous sommes des êtres incarnés et qu'on recherche cette union avec le grand tout. Et en fait, le but ultime, c'est d'avoir cette union avec le grand tout au final. Mais voilà, on peut l'analyser à un niveau plus matière, donc corps, esprit, c'est tout, et à un niveau plus spirituel. Mais de toute façon, je pense que dès l'instant où on le fait dans son corps et dans sa matière, on le ressent à l'intérieur, et c'est pour ça qu'il y a un tel engouement, c'est que les gens, quand ils font une pratique de yoga, généralement, ils ressentent ça, même s'ils savent pas poser des mots, même s'ils savent pas pourquoi, et au final, c'est peut-être pas important, d'ailleurs, de savoir pourquoi, en fait, ils le ressentent, et du coup, je pense que c'est ça, en fait, qui les guide là-dedans.
En tout cas, c'est toi, c'est avoir vécu l'expérience du yoga qui t'a donné envie de continuer, d'approfondir et finalement d'en faire ton chemin de vie.
Oui, tout à fait, C'est cette expérience que j'ai eue en pratiquant, qui m'a révolutionné, qui a révolutionné ma façon de voir les choses, d'être dans ma vie, de ressentir plus les choses, les émotions, de s'observer. Il y a une telle quantité de choses qui se mettent en place quand on pratique que c'est compliqué, en fait, de vraiment mettre des mots dessus. Je pense que c'est quelque chose qui se ressent, en fait, qui se vit. Après, oui, on peut en parler, on peut mettre des mots dessus, mais c'est vraiment une expérience pour moi, une expérience à vivre.
Aujourd'hui, on est beaucoup dans cette quête de sens, où on peut même parler d'une sorte de famine de l'essentiel, où l'être humain, l'homme, ne respire pas la joie de vivre. Et beaucoup de gens tombent malades. Donc c'est un petit peu l'axe qui va m'intéresser. C'est toute cette série d'émissions radio sur différentes thérapies alternatives. Donc pour moi, il y a différents moyens de se guérir. On va parler du corps humain d'une manière un peu plus globale ou holistique, comme on dit, parce que le corps humain n'est pas qu'un corps physique. Souvent, on a tendance d'aller dans l'urgence chez un médecin quand on a mal quelque part. Mais souvent, le mal est lié à quelque chose de plus profond, une racine plus ancrée. Et les thérapies alternatives peuvent être là pour justement faire un travail en amont, voire un travail de prévention. Est-ce que tu pourrais me parler du yoga et de la santé ? En quoi est-ce que le yoga pourrait être thérapeutique, ou en quoi est-ce que le yoga pourrait peut-être être préventif ?
Alors déjà, c'est des mouvements du corps, de base. Donc forcément, quand on amène le mouvement dans son corps, on refait circuler tout ce qui est à l'intérieur. Et du coup, forcément, au niveau de la musculature, au niveau... de l'équilibre, au niveau de l'étirement, etc., on est dans quelque chose de thérapeutique ou de préventif, on va dire. Par exemple, des gens qui ont des maux de dos, alors après ça va dépendre, hein, je fais une grosse généralité là, ça va leur permettre de se remuscler au niveau du dos, parce que tout ce qui est chien tête en bas, etc., bon, ça remuscle. Et du coup, ça permet peut-être d'avoir moins de maux à ces niveaux-là. Mais au niveau de la posture aussi, ça va permettre de plus s'ouvrir, parce qu'on est toujours en dedans. Après, au niveau de tout ce qui est respiration, de tout ce qui est d'habiter son corps d'une autre manière, ça va être tous les problèmes de stress, on va dire. Il y a des problèmes de peau, des problèmes d'asthme ou des choses comme ça. Avec une pratique régulière, ça apaise le stress. Ça permet de, bah voilà, de rééquilibrer tout ce système un peu énergétique et tout ce système un peu hormonal. Et du coup, il y a des grosses améliorations même au niveau, à tous ces niveaux-là.
Mais en comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'une pratique régulière du yoga peut diminuer le stress?
Je dirais qu'être dans l'observation et s'accorder aussi du temps et l'espace nécessaire pour ça, ça permet de poser les choses, en fait, peut-être. Ça permet aux gens d'être plus dans leur instant présent et d'observer, en fait, ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'on n'a pas le temps, en fait, dans notre vie tous les jours, surtout dans une vie parisienne, en fait. On est tout le temps, partout, tout le temps. Effectivement, le temps ne passe pas de la même manière, etc. Et du coup, là, c'est un espace pour que les gens puissent être, en fait, juste dans leur posture, dans leur corps, dans ce qui se passe dans leur tête, et de ressentir ça aussi, de s'autoriser à ressentir ça, s'autoriser à ressentir ces émotions-là et de les observer. Et je pense que c'est ça, en fait, qui fait beaucoup dans la pratique quotidienne du yoga ou la pratique même une fois par semaine du yoga.
Est-ce que tu vois, toi, est-ce que tu observes un engouement du yoga ces dernières années?
Ah oui, alors clairement, ouais. Ouais, clairement. Moi, quand j'ai commencé il y a 5 ans, ça commençait déjà l'engouement, mais alors là, maintenant, c'est en explosion totale. En tout cas, à Paris, il y a des studios qui ouvrent partout. Alors, il y a aussi un effet de mode, je pense, du coup, parce que c'est un effet boule de neige, mais il y a aussi l'effet qui est là, quand même, de base, c'est que ça fait du bien, enfin, aux gens, en fait. Ça leur permet, effectivement, de se poser, de prendre du temps pour eux, d'être mieux dans leur corps, dans leur tête. Dans leur respiration, juste apprendre à respirer dans un mouvement, ça fait beaucoup en fait.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Mais tu me parlais aussi de différentes formes de yoga, hein, le côté Ashtanga, après le côté Hatha. Qu'est-ce qui va différencier ces différentes formes de yoga? Et si maintenant on devait parler à quelqu'un qui écoute cette émission, qui, ok, connaît le yoga comme tout le monde, mais sans vraiment savoir ce que c'est, comment faire pour choisir son studio ou le type de yoga qu'on doit faire? Donc peut-être un petit peu me brosser les différentes familles ou les différentes, je sais pas comment on peut appeler ça, les différentes catégories.
Différents styles de yoga, ouais.
Différents styles, allez, ça me plaît bien. J'aime bien famille aussi, ouais. Le style.
Ok, famille si tu veux, style, ok. Alors, on va le faire du coup pour les gens qui nous écoutent, on va le faire grosso modo. Il y a plusieurs styles de yoga, il y a les styles plutôt dynamiques et les styles moins dynamiques. Donc les styles dynamiques, ça va plutôt activer le côté yang, le côté feu, le côté mouvement, etc. Côté on transpire. Donc dans le côté dynamique, on va dans les formes qui se retrouvent le plus, ça va être l'ashtanga yoga, où là on va pratiquer une série qui est un peu toujours la, qui est toujours la même d'ailleurs, qui va être assez tonique, donc c'est même l'un des plus toniques. L'ashtanga, avec des postures assez compliquées quand on va dans la série, etc. De ça va découler les différentes formes de vinyasa. Donc les vinyasa, c'est la fluidité du mouvement avec la respiration. Les différentes formes de vinyasa, il y en a plein. Mais en tout cas, le rythme est quand même normalement assez tonique. C'est un côté yang aussi, c'est un yoga qui va ramener de l'énergie, etc. Il va différer en fonction du style de vinyasa, mais il va différer aussi en fonction des professeurs, de l'énergie qu'ils mettent dans leurs cours, etc. Ensuite, dans les autres styles de yoga qu'on retrouve, il y a les styles un peu moins dynamiques et qui va plutôt activer le côté yin. Donc on a le yin yoga qui va être plus dans la tenue de la posture plus longtemps, dans l'étirement, mais pas dans l'énergie, mais dans le maintien de la posture. Donc c'est une pratique qui est plutôt douce, qui est néanmoins très transformatrice aussi. Et on va avoir aussi le yoga restauratif, où là, on va plutôt être dans la tenue de la posture aussi, mais pas de manière forcément à étirer pareil que le yin, en fait. On va être plus dans le repos du corps. On utilise beaucoup de matériel pour soutenir le corps et être bien dans la posture et la tenir, en fait, longtemps. Après, il y a beaucoup d'autres yogas différents. Il y a le Kundalini yoga qui va être plus sur un yoga plus énergétique, ou la répétition active de certains mouvements et certaines respirations, certains kriyas. Le power yoga aussi, qui va être très, très tonique. Moi, je peux pas vous faire toute l'énumération des différents styles de yoga, parce qu'il y en a vraiment beaucoup maintenant. Et on rajoute plein de mots dedans, etc. Il y a l'acro-yoga aussi, qui est le partner yoga, où on s'amuse plus qu'on fait du yoga, mais bon, ça dérive quand même du yoga, parce qu'il y a certaines postures dedans, mais à deux.
Mais en fait, c'est assez intéressant, donc j'ai vraiment l'impression que l'Occident s'est approprié le yoga et l'a modifié. On a fait tout un panel, toute une palette très diversifiée de différents... Enfin, on élargit la famille.
On élargit la famille, effectivement. Et puis je pense que plus ça va être pratiqué, plus ça va être élargi, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va ramener quelque chose, qui va dire « Ah, mais ça, c'est une idée géniale, si on créait ça !» Et pourquoi pas ? Si ça aide des gens, si c'est toujours dans le flow de l'exercice, pourquoi pas ? Après, je pense que l'origine commune, c'est la même, quoi. C'est l'union, c'est la transformation, c'est tous les aspects spirituels qu'il y a derrière, etc. Donc, je pense que après la pratique en elle-même, c'est un autre moyen d'y arriver. Et dans les pratiques de yoga, il y a aussi tout ce qui est... tout ce qui est respiration, juste se poser et respirer, même sans posture, juste être assis dans l'instant, c'est une pratique de yoga. De méditer aussi, c'est juste une pratique de yoga. Donc en fait, on peut la décliner sur plein de sortes différentes.
Qui sont tes élèves et que viennent-ils chercher ?
Ça va dépendre des lieux où j'exerce, parce que j'exerce un peu partout. J'exerce dans des studios de yoga, j'exerce dans des entreprises beaucoup, parce qu'à Paris, c'est beaucoup demandé maintenant. En entreprise, ouais, beaucoup, beaucoup. Bah, d'ailleurs, tous les midis, je suis en entreprise, dans des entreprises différentes à Paris. Et il y a un gros engouement là-dessus aussi, puisque le bien-être au travail, c'est quelque chose, je pense, qui, pareil, est en pleine expansion. Et le yoga, ça marche bien, parce que ça permet aux gens de se poser aussi, de créer une certaine cohésion d'équipe aussi, puisque les gens se voient différemment dans une salle où on fait du yoga. Il y a quelqu'un d'extérieur à l'entreprise qui vient. Il y a tout cet aspect-là aussi, en fait, qui vient. Après, dans les autres élèves, j'ai aussi beaucoup de cours particuliers. Donc là, l'aspect échange avec l'élève est complètement différent. Et voilà. Donc, qui sont mes élèves ? Il y a de tout.
Il y a les élèves, j'ai envie de dire, choisis et subis. Celui qui est en entreprise, est-ce qu'il choisit de venir au yoga ou c'est quelque chose... Enfin, je trouve ça intéressant, quoi. Le yoga en entreprise, c'est vraiment, pour moi, nouveau.
Eh ben oui, ils choisissent généralement parce que c'est des cours qui sont... Alors, ça dépend des entreprises, mais c'est des cours qui sont soit faits par le RH ou le DRH pour le bien-être des employés, ou alors grâce au CE de l'entreprise, si c'est une grosse entreprise, ou alors un petit groupe de gens qui travaillent au sein de l'entreprise qui veulent un professeur de yoga et qui, du coup, demandent à avoir une salle, etc. Donc, il y a plein de catégories différentes. Ça fonctionne toujours... c'est pas une obligation, quoi. Les gens viennent parce qu'ils ont envie de venir. Ou alors, ils viennent parce que, tiens, c'est quoi ce truc ? Qu'est-ce que c'est ? J'aimerais bien tester pour voir. Et souvent, ils se prennent au jeu. Et en fait, bizarrement, c'est le milieu dans lequel je me sentais le moins à l'aise pour aller travailler. Et en fait, c'est l'un des milieux que j'adore le plus. Parce que j'ai vraiment l'impression d'aider, en fait, les gens qui y sont. Ils se sentent bien après quand je m'en vais. Ils n'ont pas le même sourire sur leur visage. Enfin, juste ça, c'est hyper intéressant, même en tant que prof. C'est hyper intéressant en tant que prof aussi parce qu'il y a des niveaux qui sont complètement différents puisque là, il y a tous les gens de l'entreprise qui viennent. Donc, il y a les jeunes, les moins jeunes. Donc, moi, au niveau d'adapter mon cours, c'est très challenge et du coup, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Et puis, je leur propose un panel. Voilà, c'est la pause de midi. Donc, il ne faut pas non plus trop les dynamiser. Il ne faut pas non plus trop les endormir parce que sinon, après, ils ne vont plus aller bosser. Donc, c'est un mix entre les deux et c'est super intéressant.
Ouais. Ton parcours de yogini, une histoire qui t'a touchée ?
C'était quand je faisais du yoga avec les adolescents en ZEP. C'était des adolescents qui étaient très difficiles. Donc, c'était une pratique de yoga qui était un peu pas du tout normale, entre guillemets. Donc, il y avait beaucoup d'émotionnel aussi mis en jeu derrière, parce que quand c'est des élèves difficiles, il y a un émotionnel qui est difficile derrière, généralement. Donc là, mon passé de prof m'a beaucoup aidée, de prof en lycée. Et du coup j'ai fait beaucoup de cours pour ces élèves, une fois par semaine. Et en fait, j'avais un petit groupe de 3-4 élèves qui étaient très, très dynamiques et qui rigolaient beaucoup. Et c'était très compliqué de les gérer parce qu'il y avait toute une autre partie de la classe qui voulait absolument suivre et qui sentait que ça leur faisait du bien. Et l'autre partie qui voulait juste être pas dans le flow, quoi, se faire voir et autrement. Donc du coup, j'ai décidé de leur dire, bah, vous resterez à la fin et on va méditer ensemble, ce sera votre punition. Donc voilà, ils sont restés à la fin et je leur ai fait une espèce de pratique méditative relaxation. Et je les ai emmenés tellement loin dans la relaxation qu'ils se sont tous quasiment endormis ou ils étaient dans un autre monde. Et quand ils sont revenus, déjà ils ont mis du temps à revenir, et quand il y avait leur prof qui était au fond de la salle et qui était là pour gérer aussi. Et quand ils sont revenus, il y en a un qui s'est relevé et qui m'a dit « Wesh madame, mais vous nous avez emmenés où là ?» Et juste le regarder me dire ça, et je me suis dit « Mais en fait c'est là ma place quoi ». Et du coup, ça m'a beaucoup émue. Et après, ils voulaient plus partir, en fait. Ils crisaient au départ parce qu'ils n'étaient pas contents de rester, parce que c'était la fin du cours, c'était la fin de la journée, ils voulaient rentrer chez eux. Et je suis partie, ils étaient encore là avec leur professeur à aider à ranger la salle. Et juste, c'était fou.
Tu organises aussi donc des stages de yoga à l'étranger. Comment t'es venue cette idée ?
Je pense que cette idée m'est venue parce que j'ai moi-même commencé le yoga avec un stage en Nouvelle-Zélande. Inconsciemment, je pense que c'est ça qui est venu et j'ai vu à quel point la cohésion du groupe, ce qu'on peut échanger avec le professeur, parce que quand on donne des cours ponctuels d'une heure, etc., on peut échanger avec le professeur, avec les élèves, etc. Il peut y avoir un lien, mais qui n'est pas le même. Et du coup, comme j'adore le voyage aussi, ben, sortir les gens de leur contexte, les emmener en voyage, mais avec un voyage qui a du sens, et en même temps, qu'ils se fassent du bien au niveau corporel, au niveau spirituel, et qu'ils puissent voir du pays, voir une autre culture, etc. Bah, en fait, j'avais tout ce que j'adore dans ma vie. Donc, en fait, c'est venu comme une évidence, parce que c'était quelque chose qui sonnait juste pour moi, quoi.
Et un mot que tu as utilisé plusieurs fois, c'est bien-être. C'est vrai que je ne l'avais pas en tête, mais c'est peut-être plutôt ça, le yoga. C'est plutôt un outil de bien-être plutôt qu'un outil thérapeutique.
Oui, effectivement, c'est un outil de bien-être. Après, effectivement, je pense que thérapeutique, ça l'est aussi. C'est beaucoup maintenant utilisé, enfin, beaucoup de plus en plus dans les hôpitaux. Mais oui, bien-être, oui, c'est plus global, on va dire. Après, c'est sûr que si on a des gros limbagos, ce n'est pas au yoga qu'on va aller, par exemple. Mais dans une optique d'aller mieux avec un suivi derrière, etc., oui, par contre, c'est sûr.
Et ce que j'ai retenu aussi de cet échange, c'est ce mal dont on souffre souvent, c'est le stress, hein, cette surexcitation de l'esprit, du mental finalement, qui passe son temps enfin, à toujours être en action. Et le yoga permet justement de diminuer ce stress, de se recentrer autrement et de prendre du temps pour soi. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a plus tellement l'habitude de faire. Donc rien que pour ça, pour redescendre un petit peu de son mental, pour être plus dans le ressenti de ses émotions et de son corps, le yoga me paraît être un outil assez intéressant pour accompagner l'être vers un mieux-être.
Ah oui, tout à fait, ouais. Et c'est intéressant ce que tu viens de dire au niveau du mental. Juste, des fois, le fait que les gens s'assiedent et juste prennent conscience que leur mental s'arrête jamais, en fait. Juste ça, c'est la première chose. Et des fois, c'est juste une révolution de se dire « Ah mais oui, mais en fait, il y a toujours quelqu'un qui me parle dans ma tête. » Et juste d'en prendre conscience, de l'observer et de le vivre, c'est quelque chose qui est assez révolutionnaire pour les gens. Alors, ça passe par le lien de la respiration, du mouvement, etc., par tout un tas de choses, mais juste ça, ouais, c'est très transformateur.
Merci à toi.
Merci beaucoup.
Je termine souvent, je demande ça aux gens, une citation qui pour toi est inspirante ou un bouquin qui est inspirant, quelque chose qui t'a inspiré et que tu aimerais pouvoir partager.
Alors, un bouquin inspirant, c'est le premier livre. Alors, en tant que prof de yoga, j'aurais dû dire tous les livres de yoga, mais je suis désolée, je vais pas prendre un livre de yoga. Le premier livre que j'ai lu très spirituel et qui a changé ma vie, c'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, qui est pas loin, parce que je le relis souvent, il est là, il est juste là.
Il est sur la table là.
Voilà. Et du coup, c'est un livre que j'ai lu il y a, je sais pas, 12 ans, un truc comme ça, et que je relis en ce moment, et il y a tellement de lectures différentes de ce livre que je pense que je le lirai toute ma vie. Donc voilà, c'est un vrai bouquin qui a marqué ma vie.
La voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.